Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Même si on sait que quelqu'un va partir, ce moment est toujours un choc. Ce vide, tout d'un coup, rentrer chez soi et n'avoir personne à qui parler, ses gestes habituels, ses mouvements. Des fois, j'avais comme une ombre qui passait à côté de moi. Puis je dis « Ah, mais c'est toi !» Et puis je me dis « T'es fou, c'est pas possible !»
Bienvenue dans Brise-Glace. Un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Avant de vous parler de ce nouvel épisode, deux mots pour vous dire que Virginie et moi, on vous prépare un petit bonus de Brise-Glace, au cours duquel on vous racontera les coulisses de ce premier podcast du temps. Envoyez-nous vos remarques et vos questions, si vous en avez, à l'adresse briseglace@letemps.ch. On a hâte de vous lire. Martin a 80 ans. Il a perdu son épouse Mireille, l'amour de sa vie, des suites d'un cancer du cerveau. Comment vit-on seul après 60 ans de vie commune ? Martin nous parle de deuil, de manque, mais aussi de la tendresse des vieux amis et de la vie quand la mort approche.
Elle travaillait en dermatologie, mais elle était déjà diplômée. Moi, j'étais un peu en retard à cause de mon hépatite. Et puis, on était là tous les soirs à rouler des bandes. C'était un peu monotone. Et me dit, tu sais, la dermatologie, c'est comme ça. Une pommade brune ne marche pas, on met la blanche, etc. Alors ça donne beaucoup de trucs à laver. Et puis le professeur l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, moi, je l'ai trouvé tellement, c'est bête de dire ça, tellement aimante, pas aimable, aimante, tellement chaleureuse que... sans même s'apercevoir, on est devenu amis et puis fiancés. Ça n'a pas duré longtemps avant qu'on s'embrasse, c'est sûr. Je me souviens d'une seule chose, c'est quand on a annoncé nos fiançailles à mes beaux-parents, j'ai demandé la main. Maurice, le papa, il m'a dit « moi je veux bien ». Mais si tu la rends malheureuse, gare à toi, je ne saurais pas te manquer. C'était l'amour. Elle était svelte, rouquine, vraiment. Elle avait un ami de la famille qui l'appelait Ferblantine. Moi, je l'ai toujours trouvée ouverte aux autres. Elle faisait du mieux qu'elle pouvait dans son être, dans tout, pour me rendre ou pour nous rendre la vie agréable. Quand j'étais de garde, 3 jours, je ne sortais pas de l'hôpital, elle venait me trouver pratiquement, chaque fois. Mais j'ai dit, il fait tellement beau, tu te caches, une possibilité. Non, moi, qu'est-ce que tu veux, moi, je ne peux pas te laisser comme ça seul pendant 3 jours. Alors évidemment, quand il y avait des urgences, je devais partir, elle partait aussi. Au début, on avait une radio, on pouvait sortir et faire des promenades, mais très proches de l'hôpital. On avait toujours un circuit, puis on allait boire un café dans un tea room. On s'est mariés très jeunes. Elle venait de passer son diplôme, moi, 6 mois plus tard, parce que j'ai fait une hépatite en me piquant avec une aiguille de patient, puis j'étais hospitalisé pendant 3 semaines. Puis quand je suis sorti, j'ai dit à Mireille, on va aller manger une fondue. Ça a passé comme une lettre à la poste. Et puis, comment dire, une complicité même. Pour moi, les choses étaient tellement... allaient de soi pour tout. Je sais pas, moi, peut-être un peu gnangnan tout ça, mais quand j'ai pris ma traite, quand on a été faire des voyages comme ça... on marchait en se tenant la main, quoi. C'était rien de plus naturel que ça. J'ai découvert des lectures qu'elle avait, que je négligeais un peu. Quand on voyageait, c'est elle qui faisait les notes tous les jours, tous les jours. Comme elle ne conduisait pas, j'étais plus préoccupé par être là, passer par là. Elle me disait toujours, tu sais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Essayons d'être le mieux possible ensemble, de partager les moments intenses. Et puis, où chaque jour, quand on naît, c'est une nouvelle naissance, hein, quand on, à partir d'un certain âge. C'était quelqu'un qui n'avait jamais, jamais, jamais le moral à zéro, jamais. Elle était toujours souriante, physiquement. Une fois, on était dans le train, et puis un monsieur qui était assis en face, et puis me demande, elle a quel âge, votre fille? On a bien rigolé, il n'en revenait pas, elle ne changeait pas. Sur la fin, évidemment, les bras un peu, mais le visage restait étonnamment jeune, jeune, jeune. De savoir quand même qu'elle ressemblait à ma fille, ça m'a dit, tiens, elle change vraiment peu, hein, ou pas. Quand elle est décédée, presque tous ses camarades de volée sont venus. Et évidemment, on m'a demandé de s'exprimer. Puis moi, j'ai mis de la musique. Elle ne voulait pas de pasteur. Elle était toujours un peu contre, je ne sais pas pourquoi. Il faut dire que quand on s'est marié, au préalable, on voit un pasteur. Hein. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Puis c'était un type parfaitement désagréable, glacial. Je ne sais pas, un cul pincé, quoi. Je ne pense pas que c'est ça, mais elle dit, moi, je me sens plus en communion avec cet être qu'on n'a jamais vu, qui existe peut-être, quand je suis dans la nature. Par contre, elle était très sensible. On a fait les tours en France des églises romanes. C'est extraordinaire. Hein. Comment ces gens ont réussi à bâtir des choses aussi belles? Ça, c'est émouvant, mais ça ne donnait pas l'envie de rester pour une messe. Hein. J'ai mis de la musique, justement. Et puis, je l'ai lu un petit texte. Puis, c'est la première fois que mes deux gamins, Arnaud et Thomas, ont pleuré. On a fait tellement de chemin ensemble que quand elle est tombée malade, ça m'a secoué. Ses amis se sont aperçus avant moi qu'il y avait un problème. Parce qu'elle allait boire le café tous les mardis avec des amis. Et puis, elles m'ont dit, je ne sais pas ce qu'il y a avec Mireille, mais d'habitude, elle embrassait tout le monde avant de partir. Puis après, elle m'a dit un jour, écoute, moi, je ne veux plus aller faire les commissions parce que j'ai peur de rencontrer des gens puis de dire des bêtises. C'est là que j'ai compris qu'elle était malade. Elle ne voulait plus aller chercher de l'argent non plus parce qu'elle avait peur de se tromper. Puis j'ai vu un petit carnet que j'ai trouvé. Elle notait tout pour se souvenir. Alors on était voir un médecin de famille qui a dit, oh, elle a fait un AVC. Puis moi j'ai dit, c'est pas possible. C'est une invention. Bon, ben, on va faire des examens, des radios. Rien n'était visible encore. Parce que tant que la compression n'est pas trop forte. Mais un matin, elle m'a dit, je ne sais plus tenir une cuillère. Puis je ne sais plus comment faire la crème Boutbigon, manger la crème Boutbigon. Alors j'ai dit, cette fois c'est terminé, au Samaritain. Et elle a été opérée 3-4 jours après. Le chirurgien m'a téléphoné à 10h du soir pour me dire, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse tout ce qui est en notre possible pour soigner votre femme? J'ai dit, bien sûr, et c'est évident. Alors venez demain matin, si possible, avec votre fils qui habite ici, et puis je vous expliquerai comment les choses ont se passé. Alors il nous dit, voilà, elle a un astrocytome temporal gauche. C'est pour ça qu'elle avait des mouvements désordonnés. On va l'opérer dans 2-3 jours, parce qu'il faut d'abord la stabiliser, et puis après, elle ira pour sa cicatrisation un mois à la Linière. L'opération a bien réussi. Ils injectent une substance qui colore la tumeur et une autre qui colore le contour. Un mois à la Linière, j'allais tous les jours, bien sûr, depuis le début, en train. Moi, je pense que c'est ces derniers beaux jours qu'elle a vécu. Elle a un tas d'activités, physio, psychomoteur, des exercices, différentes choses, bref. Elle m'a dit, tu sais, quand on me pose des questions, puis que je glisse quelque chose de travers, ça m'embête, mais avec toi, ça ne me dérange pas. On se comprend même sans parler. Alors on allait dans le parc, sur un banc, elle est rentrée au bout d'un mois. Ils avaient commencé déjà la linéaire, la chimiothérapie. Et puis, arrivé au CHUV, ils voulaient faire une radiothérapie. Ils l'ont préparé pour ça, ils ont fabriqué un casque pour l'endroit précis. Et puis, au moment où ils voulaient commencer, ils se sont aperçus que la tumeur était plus grande qu'avant. Alors, avec les enfants, on a décidé que c'était les soins palliatifs, qui sont excellents maintenant, excellents. J'étais tous les jours avec elle, je lui récitais des poèmes, je lui faisais écouter les chansons qu'elle aimait bien. Pour moi, c'était naturel. Les infirmiers me disaient, mais vous avez mauvaise mine, vous êtes maigre et pif, il faut prendre du temps pour vous. J'ai dit, vous êtes bien gentil, hein, mais j'aurai tout le temps d'un bon mois après, parce qu'elle ne va pas survivre longtemps, c'était évident. Et puis un 2 septembre, il y a 3 ans précisément, à 10h moins quart, elle est décédée. Et quand je venais, même quand elle était plus consciente, elle se levait la main et elle touchait mes habits, mon pantalon. Elle savait que c'était moi. Elle était détendue et tout. Alors, bon, il y a une aumônière qui me pouvait lui parler. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Que Dieu est mort ou quoi? C'est ce que je lui ai dit. Mais vous savez, on a l'habitude, c'est normal, votre réaction. Même si on sait que quelqu'un va partir, ce moment est toujours un choc. L'oncologue est montée ensuite. Elle m'a pris dans les bras. Et elle m'a dit, maintenant il faut être égoïste, il faut penser à vous. Elle m'a prescrit des Seresta, qui est intact pratiquement ici, dans la pharmacie. Et puis, je suis allé plusieurs fois parler avec elle parce que ça me soulageait. Cette perte, je l'envisageais bien sûr. Hein. 4 mois que j'étais tous les jours avec elle. Et du coup, probablement une fatigue extrême, mais souvent, je n'avais pas envie de rentrer. Il m'est arrivé de traîner jusqu'à 2h du matin à Lausanne, à travers les quartiers, marcher. Il ne faut pas être obligé de rentrer. Et puis un jour, j'avais raté le dernier train, alors j'ai téléphoné à mon amie Natacha, une croate infirmière, de venir me chercher pour que je puisse passer quelques heures chez elle avant de rentrer avec le premier train.
Pourquoi vous ne vouliez pas rentrer chez vous?
Ce vide, tout d'un coup. Hein, rentrer chez soi et n'avoir personne à qui parler. Ces gestes habituels, ces mouvements, des fois j'avais comme une ombre qui passait à côté de moi. Puis je dis, ah mais c'est toi. Et puis je me dis, t'es fou, c'est pas possible. Enfin bref, et puis ça s'est tassé très rapidement. Mais maintenant j'ai une amie à Lausanne, croate. C'était une infirmière aussi. L'autre jour on a été visiter une exposition, ça fait quelques semaines. Puis comme ça, ouvrait que l'après-midi, on est allé voir un café. Puis elle m'a dit, tu sais Martin, ça fait 50 ans qu'on se connaît. Elle est arrivée jeune diplômée. On a fait un voyage ensemble avec Mireille, encore à ce moment-là, en Alaska, en Nouvelle-Zélande. C'est la personne de référence, parce que je n'en ai pas beaucoup hein, d'amis de ce type-là. Je peux lui téléphoner n'importe quand. Elle sera toujours disponible. Toujours. Sauf qu'elle voyage beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a une amie qui était infirmière ici, chef, une Allemande. Elle va souvent en Allemagne, en Munich, à Berlin, à Hambourg. Mais elle me dit, voilà, de tel jour à tel jour, je ne suis pas là, ce n'est pas la peine de me téléphoner. Autrement, des fois, on se rencontre, on va manger ensemble, chez elle, souvent, la dernière fois. Moi, j'avais un peu de peine à marcher. Ça fait des mois et des mois que je lui dis, prends une canne. C'est quand même pas compliqué. J'ai dit, mais je vais pas avoir l'air d'un vieux.
Est-ce que vous auriez envie de rencontrer quelqu'un d'autre pour partager sa vie dans une relation amoureuse?
Pas vraiment. J'ai une dame qui avait une papeterie. Elle me voyait, j'étais tous les jours au tiroir en face. Puis un jour, elle vient vers moi, c'est pas bien, vous êtes toujours tout seul, c'est pas normal, etc. Moi, je vais vous présenter ma belle-mère. Elle a insisté, pour finir, j'ai cédé. Et on a été avec elle voir un pot. Puis je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas pour moi. Hein. C'était exclu, exclu. C'était moi, je. On a fait ci, on a fait tous les pays à peu près. La chasse, elle aimait la chasse. Moi, j'aime pas du tout la chasse. La navigation, après, fait là un bateau. Elle m'en foutait plein la vue. Et puis j'ai dit, écoutez, j'étais content de vous rencontrer, mais je crois que ça sera sans lendemain.
Vous lui avez dit directement ?
Ah oui. Et puis elle a dit, moi j'étais un peu du même avis. Et depuis lors, aucune chance s'est présentée. Moi j'aime faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Avoir quelqu'un qui me tourne autour toute la journée, c'est exclu. Alors si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas ? Mais ce sera d'abord un bon tâtonnement. Et puis, petit à petit, l'envie disparaît. Je me sens bien comme ça. Il y a une dame qui habite là en dessous. Chaque fois qu'elle me voit, elle vient, puis elle s'assied à côté de moi, puis elle essaye de parler. J'ai même pas osé lui demander si elle était veuve ou quoi, parce que j'ai vu qu'elle avait une alliance. Et puis, moi, je ne veux pas refaire un pas de plus. Hein. C'est terminé. Ça s'arrête là.
Mais ça vous manque pas parfois, le contact physique, la tendresse, des caresses, je sais pas, une forme de proximité physique ?
Moi, je pense que je peux l'avoir justement avec Natacha. Parce qu'elle a pas de tabou. Je sais qu'elle est probablement lesbienne. Mais on peut se tenir par le bras, marcher. On a été visiter plusieurs fois l'Ermitage et des expositions qui nous intéressaient. Elle est affectueuse, mais en même temps autoritaire quand il s'agit de me corriger mes défauts. Hein.
Est-ce que ça vous fait peur de vieillir physiquement ?
Ça me fait pas peur, mais ça m'enrage quelquefois. J'en discutais avec mon frère l'autre jour, c'est le cadet. Il devait passer un contrôle pour la conduite. Et puis on dit, puis alors comment tu vois les choses ? Oh, ben, soyons concrets quand même, soyons... On a déjà la cheville dedans, dans le trou. L'autre jour, j'étais à Vevey, puis j'étais un peu fatigué, je me suis sur un banc en face, un soleil magnifique, le Léman. Mourir sur ce banc plutôt que dans mon lit, pourquoi pas ? Mourir rapidement, sans être complètement gâteux, comme dit Jacques Brel, j'aurais peut-être peur une dernière fois.
Quels sont les moments où elle vous manque le plus ?
Tout à l'heure, j'écoutais une chanson qu'elle adorait. Quand je l'entends, ça me fait quelque chose. Hein. Ou bien quand je passe sur la côte, quand je viens à Genève, je vois la clinique de la Linière. Ça me poigne un peu. Hein. Autrement, je pense qu'avec le temps, c'est plus un tendre souvenir qu'une douleur. Mais il y a des pics. Des fois, je lui parle. Hein. Si tu savais comme tu me manques, c'est pas croyable. On était plus de 50 ans ensemble. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, comme dans tous les ménages. Mais c'est ce que je disais à mon fils. On était des dinosaures dans le genre. Plusieurs de ses amis ont déjà divorcé, remarié, divorcé, etc. Pour un peu de travers, on s'en va. Hein. Moi, la solitude... Qu'on choisit, on en a tous besoin à un moment donné. La solitude qu'on subit, elle est mortifère. Diversifier ses intérêts, je lis beaucoup, j'écoute la musique. Pour moi, c'est une nécessité. Et puis, avoir 3 ou 4 amis sur lesquels on peut compter à n'importe quel moment, ça me suffit. Ça me suffit amplement.
Comment est-ce que votre quotidien a changé depuis la mort de Mireille ?
Moi, ce que j'avais peur, c'était de tomber dans une sorte de routine pour oublier. Or, moi, je déteste la routine.
Qu'est-ce que vous pensez qui se passe, justement, au moment de la mort ? Quelle est votre vision de la mort?
Ça ne m'empêche pas de dormir. Comme je disais tout à l'heure, mourir sans devenir complètement gâteux, légumes, etc. Mourir en pleine santé, debout, en quelque sorte. M'endormir un soir et pas me réveiller le lendemain matin, ça ne me fait pas peur. J'y pense même pas.
À quelqu'un qui vient de perdre un être aimé, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire?
C'est difficile, mais on peut imaginer hein, comme ça, pas dans le concret. La première chose, ne te referme pas sur toi-même. Ça, c'est la pire des choses. Continue d'avoir une vie sociale, même si tu dois faire un effort. Et puis, je lui dirais aussi qu'il existe des endroits où tu peux discuter. Moi, j'étais à la place Pépinet, il y a un truc comme ça. J'étais discuté avec, et puis elle m'a donné de la lecture, elle m'a donné des références, elle m'a dit, écrivez ce que vous ressentez. Ça peut vous aider beaucoup. Puis après, vous nous venez, on peut en parler. J'ai dit, écoutez, moi, s'il y a plusieurs personnes, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, j'aime pas beaucoup. Mais si on peut parler de personne à personne, aucun problème. Et c'est vrai que ça a l'air de rien pour essayer d'avoir des pistes, ce cap difficile du choc de la perte de la personne aimée. Je ne saurais pas quoi en dire de plus.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki-Yablou. Si vous aimez Brise-Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. À dans 15 jours!